Étude sur le chapitre 7 de la Genèse. Noé avait-il aucune crainte des eaux du jugement de Dieu? Certainement non. Il savait qu'elles avaient tous été répandues, tandis que lui-même il était élevé par ces mêmes eaux en dehors des atteintes du jugement. Son arche flottait en paix au-dessus de ces vagues qui avaient servi à la destruction de toute chair, et c'est Dieu lui-même qui l'y avait placé. Il aurait pu, lui aussi, dire dans le langage triomphant de l'apôtre, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Romains 8, verset 31. L'Éternel lui-même l'avait invité à entrer dans l'arche. « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison. » Puis, quand il lui prit place, l'Éternel ferma l'arche sur lui. L'arche était un sûr asile pour chacun de ceux que Dieu y avait appelés. L'Éternel gardait la porte, et sans lui, nul ne pouvait ni entrer ni sortir. Il y avait une porte et une fenêtre à l'arche. Le Seigneur, de sa puissante main, défendait la porte, laissant à Noé la fenêtre par laquelle il pouvait regarder en haut d'où le jugement était sorti et voir qu'il était passé pour lui. La famille sauvée ne pouvait regarder qu'en haut, car la fenêtre était située dans le haut. Noé et les siens ne pouvaient voir les eaux du jugement, ni la mort et la désolation causées par ces eaux. Le salut de Dieu, le bois de Gopher, était entre eux et toutes ces choses. Ils ne pouvaient regarder qu'en haut et voir un ciel sans nuages, demeure éternelle de celui qui avait condamné le monde et les avait sauvés. Rien n'exprime mieux la parfaite sécurité de celui qui croit en Christ que ses paroles « L'Éternel ferma l'arche sur lui ». Qui pourrait ouvrir quand Dieu a fermé? La famille de Noé était dans une sécurité parfaite, telle que Dieu seul peut la donner. Nulle puissance angélique, humaine ou satanique n'aurait été capable de forcer la porte de l'arche pour y faire entrer les eaux. Cette porte avait été fermée par la main qui avait ouvert les écluses des cieux et rompu les fontaines du grand abîme. Ainsi, nous lisons de Christ qu'il est celui qui a la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Apocalypse 3, verset 7. Lui aussi, il tient les clés de la mort et du Hadès. Apocalypse 1, verset 18. Nul ne peut sans lui franchir les portes du tombeau pour entrer ou sortir. Il a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il est chef sur toute chose à l'assemblée. Et en lui, le croyant est en parfaite sécurité. Matthieu 26, verset 18, Éphésiens 1, verset 22. Qui aurait pu atteindre Noé? Quelle vague eût pu pénétrer dans cette arche enduite de poids en dedans et en dehors? Et maintenant, qui pourrait toucher à ceux qui, par la foi, se sont réfugiés à l'ombre de la croix? Tout ennemi a été vaincu et réduit au silence pour toujours. La mort de Christ a répondu triomphalement à toutes les difficultés, tandis que sa résurrection est la déclaration de la parfaite satisfaction de Dieu en cette œuvre, en vertu de laquelle sa justice peut nous recevoir, et qui est le fondement de notre confiance pour nous approcher de lui. La porte de notre arche étant donc ainsi mise en sûreté par la main de Dieu lui-même, nous n'avons qu'à jouir de la fenêtre, ou, en d'autres termes, à marcher dans une heureuse et sainte communion avec celui qui nous a sauvés de la colère qui vient et nous a fait héritier de la gloire à venir que nous attendons. L'apôtre Pierre parle de celui qui est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. 2 Pierre 1, verset 9. C'est là une lamentable condition, et elle est la part de quiconque néglige d'entretenir, dans un esprit de prière, une communion habituelle avec celui qui nous a enfermés en Christ pour l'éternité. Avant d'aller plus loin dans l'histoire de Noé, jetons un coup d'œil non plus sur ceux qui étaient dans l'arche, mais sur ceux auxquels Noé a si longtemps prêché la justice et qui sont restés en dehors de l'arche. d'un regard inquiet dut suivre le vaisseau de miséricorde à mesure qu'il s'élevait avec les eaux. Mais, hélas, la porte était fermée. Le jour de grâce était passé, le temps du témoignage avait pris fin et pour toujours pour ceux qu'il concernait. La même main qui avait fermé la porte sur Noé en avait exclu ceux qui étaient dehors. Ceux qui étaient restés en dehors de l'arche étaient irrévocablement perdus. Les autres, effectivement sauvés. Le long support de Dieu, aussi bien que le témoignage de son serviteur, avait été méprisé par les hommes, absorbés qu'ils étaient dans les choses présentes. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les fit tous périr. Luc 7, verset 26-27. En elle-même, toutes ces choses n'étaient pas mauvaises, et le mal n'était pas dans les choses faites, mais dans ceux qui les faisaient. Chacun des actes qui sont mentionnés peut être accompli dans la crainte du Seigneur et à la gloire de son saint nom, moyennant la foi. Mais hélas, la foi manquait. La parole de Dieu était rejetée. Dieu parlait de péché et de chute et les hommes n'étaient pas convaincus. Dieu leur parlait de salut, mais ils n'y prenaient pas garde et poursuivaient leurs plans et leurs spéculations sans se soucier de Dieu. Ils agissaient comme si la terre leur eût appartenu en vertu d'un bail à perpétuité, oubliant que le contrat renfermait une clause de restitution. Ils oubliaient ce mot solennel de « jusqu'à ». Dieu était exclu. Toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que méchanceté en tout temps. C'est pourquoi ils ne pouvaient faire aucun bien. Ils pensaient, parlaient et agissaient eux-mêmes, se complaisaient à eux-mêmes, oubliant Dieu. Lecteur, souvenez-vous de ces paroles du Seigneur Jésus. Comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme. Ou, comme dit Matthieu, à la venue du Fils de l'homme. Luc chapitre 17 verset 26, Matthieu chapitre 24 verset 37. On voudrait nous persuader qu'avant l'apparition du Fils de l'homme dans les nuées du ciel, la justice couvrira la terre d'un pôle à l'autre et que nous devons vivre dans l'attente d'un règne de justice et de paix produit par les instruments actuellement à l'œuvre. Mais le court passage que nous venons de citer coupent à leurs racines toutes ces espérances vaines et illusoires. La justice couvrait-elle la terre au jour de Noé? La vérité de Dieu dominait-elle? La terre était-elle remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent? L'Écriture nous répond que la terre était pleine de violence, que toute chair avait corrompu sa voix sur la terre, que la terre aussi était corrompue devant Dieu. Eh bien, il en sera ainsi à la venue du Fils de l'homme. La justice et l'extorsion ou la violence ne se ressemblent guère, non plus que la méchanceté universelle et la paix universelle. Il n'est besoin que d'avoir un cœur soumis à la parole et dépouillé d'opinions préconçues pour comprendre le vrai caractère des jours qui précéderont immédiatement la venue du Fils de l'homme. Que le lecteur ne se laisse pas égarer, mais qu'il s'incline avec respect devant l'Écriture, qu'il considère quelle était la condition du monde dans les jours avant le déluge, et qu'il se souvienne que, comme il en était alors, ainsi il en sera à la fin de la période actuelle. L'homme, au jour de Noé, déployait, il est vrai, une énergie puissante pour faire du monde un séjour commode et agréable. Mais il ne pensait pas à en faire un lieu digne de Dieu, ce qui eût été bien différent. De même, maintenant, l'homme s'applique à aplanir de toute manière le sentier de la vie humaine et à le rendre aussi uni que possible. Mais ce n'est pas là, aplanir dans le lieu stérile, une route pour notre Dieu, ni aplanir les lieux raboteux, afin que toute chair voie le salut de l'Éternel. Ésaïe 40, verset 4-5. La civilisation domine, mais la civilisation n'est pas la justice. On travaille à balayer et à orner la maison, non pour la rendre propre à recevoir Christ, mais l'Antichrist. L'homme use de sa sagesse pour cacher sous les plis de ses propres œuvres les taches et les misères de l'humanité. Mais pour être dissimulées, ces taches ne sont point enlevées. Et bientôt, elles perceront la couverture qui les cache et apparaîtront plus hideuses que jamais. Bientôt, les digues, au moyen desquelles l'homme cherche avec tant de persévérance à arrêter le torrent de la misère humaine, céderont à la puissance écrasante du mal. On verra échouer tous les efforts de l'homme pour renfermer la dégradation physique, mentale et morale de la postérité d'Adam dans les limites que la charité humaine a inventées. Dieu a dit « La fin de toute chair est venue devant moi ». La fin n'est pas venue devant l'homme, mais elle est venue devant Dieu. Et, quoique la voix des moqueurs s'élève disant « Où est la promesse de sa venue ?» Car depuis que les pères se sont endormis, toutes choses demeurent au même état dès le commencement de la création. 2 Pierre 3, verset 4. Cependant, le moment approche rapidement où ces moqueurs recevront leur réponse. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et dans ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre et les œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement. 2 Pierre 3, verset 4 à 10. Telle est la réponse de Dieu aux moqueries des intelligents de ce monde, mais non aux affections et à l'attente spirituelle des enfants de Dieu. Ces derniers, que Dieu en soit béni, ont une perspective bien différente. Ils attendent de s'en aller à la rencontre de l'époux dans les airs avant que le mal soit arrivé à son comble et que le jugement de Dieu tombe sur ce mal. L'attente de l'assemblée n'est pas de voir le monde détruit par le feu, mais de voir se lever l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Mais de quelque côté et à quelque point de vue que nous considérions l'avenir, que l'objet qui se présente à la vue de notre âme soit l'Église dans la gloire ou le monde dans les flammes, la venue attendue de l'époux ou la venue inopinée du larron dans la nuit, l'étoile du matin ou le soleil brûlant du midi, l'enlèvement de l'Église ou bien le jugement, nous devons sentir combien il importe que nous nous tenions au témoignage de Dieu en grâce envers les pauvres pécheurs. Voici c'est maintenant le temps agréable, voici c'est maintenant le jour du salut. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, de Corinthiens 6, verset 2, et 5, verset 19. Maintenant, Dieu réconcilie. Bientôt, il jugera. Maintenant, tout est grâce. Alors, il n'y aura que colère. Maintenant, Dieu pardonne le péché par la croix. Alors, il le punira par les peines éternelles. Maintenant, Dieu fait publier un message de grâce, de la grâce la plus pure, la plus abondante et la plus gratuite. Il parle aux pécheurs d'une rédemption achevée par le précieux sacrifice de Christ. Il déclare que tout est accompli. Il attend pour faire grâce. La patience de notre Seigneur est salut. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement, mais il est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3, verset 9, verset 15. Combien tout cela rend le temps présent solennel. Une grâce sans mélange est annoncée, mais le jugement suspendu est prêt à éclater. Si Dieu nous a rendus attentifs à ces choses, avec quel profond intérêt ne devrions-nous pas suivre le développement de ses desseins? L'Écriture répand sa lumière sur toutes choses. Par elle, nous n'en sommes pas réduits à regarder les événements qui se succèdent avec l'étonnement de ceux qui ne savent ni où ils sont ni où ils vont. Nous pouvons et nous devrions avoir une connaissance exacte de notre situation. Nous devrions bien connaître la tendance directe de tous les principes qui sont actuellement en jeu, le grand tourbillon vers lequel se précipitent rapidement tous les ruisseaux. Les hommes rêvent un âge d'or. Ils se promettent un millénium des arts et des sciences. Ils se nourrissent de la pensée que demain sera comme aujourd'hui et encore bien supérieur. Ésaïe 56, verset 12. Mais hélas, combien sont vaines toutes ces pensées, tous ces rêves et toutes ces espérances. La foi peut voir les nuages s'amonceler à l'horizon du monde, le jugement s'approche. Le jour de la colère se hâte, la porte va se fermer. L'énergie d'erreur de Thessaloniciens 2, verset 11, va commencer à agir. Et en vue de ces choses, ne faut-il pas élever une voix d'avertissement et chercher à contrebalancer par un témoignage fidèle la malheureuse propre satisfaction de l'homme? Sans doute, de même qu'Akab accusait Michée, le monde nous accusera de ne prophétiser que du mal. Mais qu'importe. Prophétisons ce que prophétise la parole de Dieu et faisons-le dans l'unique but de persuader les hommes, de Corinthiens 5, verset 11. La parole de Dieu, elle seule, pourra, au lieu du fondement trompeur sur lequel nous reposons, placer nos pieds sur un fondement immuable et éternel. Elle seule pourra nous ôter un roseau cassé et une espérance trompeuse pour nous donner le rocher des siècles et une espérance qui ne rend point hantée. Romains 5, verset 5. L'amour vrai, l'amour de Dieu ne crie pas paix, paix quand il n'y avait point de paix. Jérémie 6, verset 14, 8, verset 11. Il n'enduit pas non plus le mur de mauvais mortier. Ézéchiel 13, verset 10. Dieu veut que le cœur du pécheur se repose en paix dans l'arche de l'éternelle sécurité, jouissant dès à présent de sa communion et nourrissant avec amour l'espérance de jouir avec lui du repos dans une création renouvelée, alors que la ruine, la désolation et le jugement auront passé pour toujours.